beaucoup, Muriel. Très précis, récit des nœuds à quatre et fin analyse du tour de Bontot. Et pour finir, Marc Strauss, notre collègue psychanalyste de Paris, qui va nous parler sous le titre Anatomie borromaine.
Oui, merci Radou, merci déjà aux deux autres intervenants. Ce que vous voyez là sur ma tête, ce n'est pas un masque, c'est un casque. Parce que Patrick a eu la gentillesse de me dire que mon micro d'ordinateur était pourri. Alors, anatomie borroméenne, donc, c'est comme ça que je cherche mon fichier, pardon. Laissez-moi une seconde. Voilà, je l'ai. Alors, il y a une question qui me taraude depuis très longtemps. Est-ce que les nœuds borroméens apportent du nouveau à notre compréhension de la névrose? Et par là, évidemment, à notre pratique, à sa technique et à ses finalités. Et aujourd'hui encore, vous me le pardonnerez, j'espère, je suis encore loin, très loin, d'avoir à cette question une réponse satisfaisante. Ce sont donc des hypothèses que je vous présenterai ce soir. Premièrement, je crois que nous pouvons développer assez facilement en quoi les nœuds n'apportent rien de nouveau. En revanche, ils sont une représentation, la représentation la plus immédiatement saisissable, la plus pertinente de la thèse de Lacan. Une thèse que Lacan soutient depuis le tout début de son enseignement, depuis avant même la conférence de 1953, la décomposition, si je puis dire, de l'être en trois registres distincts. Il a nommé ces trois ordres devant des auditeurs choisis et il avait déjà mis en scène ces trois dans son apologue des prisonniers de 1945. Depuis ses débuts, et Lacan le répète indéfiniment, l'un est trois, voire, Michel l'a rappelé, quatre. Et la question qui se pose est de savoir alors comment se distinguent et s'articulent ces trois pour faire un. Alors c'est au regard de cette question que pour Lacan, la découverte freudienne trouve sa place. À partir de la détermination inconsciente du symptôme. À commencer évidemment par le symptôme hystérique dont la signification est toujours sexuelle.
Oui.
Cela dit, si les nœuds n'apportent rien de nouveau, ils permettent de rendre compte de la clinique comme jamais auparavant, de façon neuve. Ils correspondent exactement à ce qu'est l'être parlant, cet être qui aspire à l'unité et dans sa hâte à l'atteindre, cette unité s'en fait une fausse idée. Quel que soit le côté par où il s'essaye à faire un, ça foire. Ça, c'est la traduction lacanienne de la foi. Dans ces tentatives, le sexe et le corps de l'autre sont sollicités comme un recours pour donner son unité au corps propre. Propre, si je veux dire. Sauf l'hystérique, justement. L'hystérique n'entre pas dans cette comédie sexuelle. Elle défend la valeur du manque dans le désir. Ce manque, c'est le premier organe incorporel inventé de l'anatomie humaine, par Lacan, qu'il a nommé objet petit a. Il l'a déduit de sa pratique, en a démontré la logique, et l'a fait finalement surgir, c'est son expression dans Oupire, il l'a fait surgir lors de sa première présentation publique du nœud, toujours devant un public choisi. Ce nœud a été, il y insiste, une rencontre fulgurante. C'était exactement ce qu'il cherchait depuis toujours. Un coup de foudre, en quelque sorte, dont on sait qu'il s'est terminé en union, union à la vie et à la mort. Enfin, l'un que forment ensemble les trois consistances différentes est représenté de façon juste. Et quand il est mis à plat, il situe parfaitement en plus l'un comme point de coincement. Avec ce point triple ainsi défini par le nœud, les coordonnées cliniques se redisposent de façon nouvelle aussi. Et nous connaissons tous plus ou moins bien les schémas où Lacan situe, Muriel vient d'en parler, l'inhibition, le symptôme, l'angoisse, les schémas où il situe les différentes jouissances, etc. De ce point de vue, une analyse ne serait-ce pas amener un sujet finalement à mettre à plat son nœud. Le parlant s'embrouille pour faire un. Il se prend les pieds dans les cordes, dans la trame de son tapis, en voulant à tout prix ne voir qu'une corde, qu'une sphère. Il se veut sphère. Sphère SPH. Les interprétations au cours de l'analyse, essentiellement les équivoques, permettent de défaire les adhérences factices qui, entre ces ordres, faisaient illusion de rapport. Et, du coup, les symptômes d'angoisse s'évaporent les uns après les autres, jusqu'à, en effet, ce que l'analysant soit au bout de son rouleau, à plat. Et là, il peut avoir une vue sur ce qui fait son unité, son point de manque à lui, et ce qui le cerne, ce par quoi il est cerné. Notre sujet s'en trouve du coup moins coincé, moins étouffé en tout cas, et l'hystérique, qui avait bien raison de ne pas trop miser sur le corps à corps pour atteindre à l'un, l'hystérique peut enfin, si elle le souhaite, accorder à son corps une place dans la danse des sexes. Évidemment, cette belle mise à plat est une fable. Ça ne peut pas coller. Ou plutôt, ça colle encore trop. Et donc, comme à chaque fois, Lacan l'a renversée. Très précisément, je situerai ce renversement, et je ne pense peut-être pas le seul, et je parle là sous le contrôle de Michel. Il a opéré ce renversement très précisément entre la fin du séminaire RSI et le séminaire Le Symptôme. Au moment donc de ces deux conférences sur Joyce, en juin 1975. Je ne dirais pas que c'est le dernier mot de Lacan sur la névrose, mais je veux souligner de ces passages les conséquences sur sa définition de l'hystérie. C'est dans la deuxième de ses conférences qu'il en parle, alors même qu'il s'occupe de Joyce et qu'il est sur la piste de la façon de rendre compte, de la façon dont Joyce a su se constituer comme unité. Michel l'a évoqué de façon extrêmement précise, comment il a construit son escabeau, sans mettre en jeu le corps, son corps, et encore moins le corps à corps. C'est ce dernier point que Joyce partage avec l'hystérie, pas de corps à corps, et ce qui justifie donc Lacan de lui consacrer une assez large parenthèse. Il me semble que Lacan est sur cette piste chez Joyce parce que le nœud matriciel, le nœud à trois, ne résout pas le problème de sa construction. Alors que Joyce, lui, résout ce problème d'une façon tout à fait remarquable. Lacan reprend alors ce quatrième qu'il avait toujours évoqué et explore une hypothèse. Si les trois ne sont pas donnés, donnés par on ne sait quelle grâce mystérieuse, et s'ils sont réellement distincts comme ils doivent l'être, alors il faut un quatrième pour les nouer. Et, Muriel vient de l'évoquer, à la fin du séminaire RSI, Lacan rapporte la fonction de ce quatrième à la nomination. Au nom du Père, la nomination. Et il conclut ce séminaire en couplant ce quatrième tour à tour avec chacune de ces trois consistances. On connaît ça un peu, Muriel vient d'en parler, nomination réelle, imaginaire, symbolique. Mais, là-dessus je vais mettre l'accent, dans les conférences pour Joyce de juin, sur Joyce, ce quatrième en juin donc va changer de nom. Il va devenir le symptôme, qui va devenir le symptôme dans le séminaire à suivre. Et dans ses conférences, Lacan précise « Ce faisant, j'ai introduit quelque chose de nouveau. » Ce n'est pas souvent que Lacan dit ça. Il dit ça dans Télévision à propos du transfert. J'ai introduit quelque chose de… Et de l'objet A, évidemment, pardon. « Ce faisant, j'ai introduit quelque chose de nouveau qui rend compte non seulement de la limitation du symptôme, mais de ce qui fait que c'est de se nouer au corps, c'est-à-dire à l'imaginaire, de se nouer aussi au réel et comme tiers à l'inconscient que le symptôme a ses limites. C'est donc ce quatrième symptôme qui fait l'un du nœud. Et il est défini. Il est défini tout simplement comme événement de corps. C'est là, me semble-t-il, que Lacan bouleverse sa clinique et reprend la question de la place du corps dans celle-ci, en faisant donc une place nouvelle au corps de l'autre. C'est le corps de l'autre qui est en jeu. L'autre du couple, en effet, n'est plus alors seulement représenté dans le fantasme, comme agalma, contenant de l'objet désiré. C'est son corps à cet autre qui peut faire symptôme, c'est-à-dire événement de corps. Ça, quelque chose donc passe de corps en corps. Et c'est à partir de là que Lacan définit, déduit, la place d'une femme. Place d'une femme non plus objet A, comme il la disait encore dans le passage célèbre de RSI, mais, je cite, « Ainsi des individus qu'Aristote prend pour des corps peuvent n'être rien que des symptômes eux-mêmes relativement à d'autres corps. Une femme, par exemple, elle est symptôme d'un autre corps. » C'est un passage qui a déjà été commenté plusieurs fois, en particulier par Colette Solaire, j'en reprends un petit bout là. Ce que Lacan illustre là, ce n'est donc pas la façon dont les fantasmes entrent en malentendu au bal masqué du comte d'Orgel. C'est la façon dont les jouissances des corps y entrent en résonance. Une femme fait donc symptôme, événement de corps, sur le corps donc de celui qui l'a. Celui qui l'a, c'est comme ça que Lacan qualifie l'homme. Comme symptôme ainsi défini, une femme est quatrième. C'est elle qui fait un pour l'homme. Elle noue son imaginaire, son réel et son symbolique. Elle lui fait croire à son unité corporelle. Une unité corporelle qui ne va donc plus, on le voit, sans l'intervention non seulement de l'objet A déjà inventé, mais d'un autre corps, dans une relation de corps qui reste à définir. Alors l'événement de corps, Lacan en a abondamment parlé. Il s'est appuyé sur celui qui a tellement troublé le petit Hans. Dans ses conférences sur Joyce, il parle de ce qui se passe pour le sujet qui ne se fait pas événement de corps pour l'autre, donc côté une femme. Ce qui se passe pour le sujet qui ne se fait pas événement de corps pour l'autre. Je le cite, « Si ça n'est pas le cas, elle reste symptôme, elle reste, j'insiste sur le reste, symptôme dit hystérique, j'insiste aussi, on veut dire par là dernier. » Remarquons d'abord, à propos de cette phrase, que Lacan se contente de dire « si ça n'est pas le cas ». Il ne fait pas porter le chapeau à l'hystérique. Il ne dit pas qu'elle s'y refuse. n'est pas le cas du tout. Deux remarques encore sur cette phrase. J'ai insisté sur le reste. Elle reste symptôme, ce qui laisse entendre que être symptôme, c'est un point de départ, que tous les êtres parlants sont partis de là, avant d'être symptôme d'un autre corps. Et Lacan précisera un peu plus loin, en effet, que pour ce qui est de l'hystérie, les hommes ont avantage. Alors, que veut dire rester symptôme, être symptôme, quand on n'est pas encore allé jusqu'à être symptôme d'un autre corps? Lacan l'a déjà longuement développé, ce que ça veut dire, ce être symptôme. Avant d'être symptôme d'un autre corps, on est, tout le monde le sait, objet A du désir de l'autre. Pour aller vite, notre corps, par un de ses orifices, s'offre comme le lieu d'un intérêt particularisé de la mère désirante. Deuxième remarque sur cette phrase, à propos du gui hystérique. Lacan nous rappelle par là que l'hystérie n'existe que si elle est dite comme telle, donc dite par un autre qu'elle intéresse au point qu'il la nomme. Donc, si elle n'est pas symptôme du corps de l'autre, elle n'est pas pour autant sans lien avec l'autre. Mais, au lieu de laisser son corps à l'autre corps, elle s'intéresse, nous précise Lacan, elle s'intéresse au désir de cet autre. Soit à ce qui fait pour lui symptôme. Au lieu de l'être, elle s'intéresse à ce qui fait pour lui symptôme. Et comme dit Lacan, donc ainsi elle reste symptôme. Et Lacan précise, je l'ai dit, symptôme dernier. Dernier, je l'entends comme ça, c'est ce symptôme de conversion au départ, historiquement. Ce symptôme qui confronte l'autre à ce dont il ne peut rien dire. Et du coup, comme ça c'est raccordé à l'autre, Lacan dit que ce symptôme dernier est aussi symptôme second. Second qui se met à la remorque du désir de l'autre, que je distingue donc, j'essaie de distinguer, là, il me semble que le texte distingue, du corps comme symptôme de l'autre. L'hystérie, c'est donc le statut du sujet en tant que tel. Un sujet qui est et qui reste divisé entre son corps symptôme premier et son corps symptôme de l'autre. S'il n'en reste pas à son corps symptôme premier, le sujet pourra, ce n'est pas une obligation, mais il pourra tenter de combler sa division par l'accouplement des symptômes, par le corps à corps, l'union sexuelle, mais ça ne réglera rien à sa division première. Et en effet, ça, je crois que ce n'est pas pour rien que Lacan prend soin de rappeler que l'analyse a pris pied dans l'expérience des hystériques symptômes. C'est parce que l'analyse donne raison à l'hystérique pour ce qui est de l'impasse du corps à corps pour ce qui est d'unifier le corps aux symptômes. Alors pour conclure, je dirais, grâce à ces cheminements de Lacan, tel que je les lis, que la névrose, c'est une tentative de réparer la division par le corps à corps, mais que le socle de la névrose reste l'impossibilité de cette unité. L'impossible unité corporelle du par-l'être, soit le socle de la névrose, l'hystérie, ce que Freud avait déjà dit. Joyce, lui, qui n'est pas névrosé, répond aussi à la division, en laissant aussi de côté le corps de l'autre. Il y répond par la division, par son symptôme, pardon, ce symptôme d'écriture. Lacan en parle. Tracade beaucoup. Il répond par son symptôme, alors que sa femme, précise Lacan, ne lui sert à rien. La psychanalyse, pour sa part, répond, me semble-t-il, qu'elle répond en montrant ce qu'est en réalité le corps de l'autre. Il est en place de symptômes qui unifient encore. C'est une réalité corporelle réduite au déchet. Cette place du corps de l'autre, symptôme, c'est un autre mode de ravalement que le ravalement freudien, complètement différent. Et avec le déchet, nous retrouvons le psychanalyste comme corps partenaire dans l'expérience. Corps partenaire, mais conforme à la structure de la production de l'un. Non pas donc en place d'objet, mais d'objet A. Mais d'objet A, impossible à consommer, semblant d'objet A. Voilà à quoi se réduit le corps du partenaire. Au-delà ou en deçà de l'impasse du corps à corps. Et c'est à ce point précisément que s'inscrit le discours analytique et que se répartissent les places. Alors, pour conclure, l'idée platonicienne, l'idée ne suffisant évidemment pas à reproduire le corps de l'individu parlant, Lacan, anti-platonicien, aurait-il avec les nœuds réussi là où Joyce a échoué, comme il le laisse entendre, aurait-il réussi à produire avec les nœuds la formule, c'est un mot qui peut dans le contexte évoquer la triméthylamine, Lacan aurait-il trouvé avec ses nœuds la formule du symptôme. Voilà, je vous remercie.